Bienvenue pour ce premier café littéraire, en tout cas en ce qui me concerne. Après l'ouverture, on va parler du prix imaginaire des lycéens, qui sera remis cet après-midi à Paul Béorn. Et puis on a trois des auteurs qui étaient en lice pour ce prix et qui vont un peu nous raconter à la fois leur expérience. Et puis évidemment, on va parler des livres concernés. Le Roi des Fauves pour Aurélie Wallenstein, Port d'âme pour Lionel Davoust et puis Les Neiges de l'Éternel pour Claire Crust. Et vous allez voir qu'on va être dans des univers à la fois très différents, des styles aussi très différents, des côtés un peu plus sombres pour certains que pour d'autres, mais dans l'ensemble, on est quand même dans une tonalité assez, assez noire, malgré tout, mais avec trois jolis romans. Moi, je voulais commencer avec Aurélie Wallenstein, parce que, pardon de le rappeler, mais finaliste malheureuse de ce prix des lycéens. Quelle était votre expérience en la matière? Est-ce que c'est la première fois que vous étiez comme ça engagé dans une sélection de prix littéraires et par rapport à votre expérience, des rencontres avec, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de rencontrer les jeunes lecteurs. Enfin voilà, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé tout ça.
Alors déjà les imaginales, il faut savoir que pour les auteurs, c'est un de nos festivals préférés. Vraiment, moi je viens ici depuis des années. En fait, j'étais pas encore publiée, je venais déjà aux imaginales au festival. Donc c'est vrai que quand j'ai appris la sélection du Roi des Fauves au prix des lycéens, mais j'étais hyper contente. Je pense que c'est une des sélections qui m'a fait le plus plaisir. Parce que j'ai eu pas mal de sélections avec le Roi des Fauves. Je vais pas vous citer les prix, mais il y en a eu 5 ou 6. Et les imaginales, le prix lycéen des imaginales, pour nous c'est extraordinaire parce qu'en fait c'est un prix public, c'est-à-dire que c'est pas un petit jury de quelques personnes, c'est des classes entières et qui vont débattre du livre, qui vont s'investir sur le livre. Alors c'est clair que pour nous c'est extraordinaire, ça nous fait vraiment plaisir que vous puissiez découvrir les bouquins dans le cadre aussi scolaire. C'est quand même chouette que les lycées s'ouvrent aussi aux littératures de l'imaginaire. C'est pas ma première expérience parce que j'en ai eu une autre, mais avec des collégiens, autour de mon autre bouquin Chevaux de foudre, qui était sélectionné à un prix d'une autre ville qui s'appelle Pithiviers. Donc j'ai rencontré les collégiens en mars dernier. Et c'était ils sont en sixième, hein, donc c'est des très jeunes et c'était assez mignon, c'était chouette, voilà. Donc voilà, on est avec le Roi des Fauves, on est quand même dans une catégorie un peu plus sombre. D'ailleurs j'étais un peu gênée parce qu'avec les collégiens ils font vous écrivez quoi d'autre? Le Roi des Fauves, super, j'ai envie de le lire. T'es sûre? Parce que c'est un peu violent. Bon, en plus ça commence par une scène de viol, hein. Donc c'est un peu hard, mais c'est vrai que bon, il y en a certains qui l'ont lu, qui ont vachement aimé, ils ont 12-13 ans, hein. Donc bon, c'était marrant. Et donc non, ça nous fait super plaisir.
Claire Crust, même question, avec la particularité que vous, c'est votre premier roman, Les Neiges de l'Éternel. Quand vous avez appris un peu cette sélection, qu'est-ce que ça vous a, ce que ça vous a fait, et puis quelle expérience en retirez-vous?
Alors pour moi, c'est mes premières imaginales déjà. Contrairement à Aurélie, je n'étais jamais venue, sachant qu'en fait j'habitais à Lille, donc je connaissais le festival en tant que lectrice, mais comme c'était un petit peu loin, un petit peu compliqué de venir. Enfin, je vous explique, j'ai pris 3 trains pour venir.
Vous avez dit le mieux pour venir, c'est d'écrire un livre.
Oui, voilà. et donc je n'avais jamais eu l'occasion de venir, mais on m'en avait énormément parlé. Et depuis, donc, Les Neiges de l'Éternel est paru en août dernier, tous les auteurs que j'ai rencontrés me disent « Ah mais c'est génial, il faut absolument que tu viennes aux Imaginales, c'est le meilleur festival, tout le monde se retrouve. » Voilà. Et du coup, quand j'ai vu que j'étais sélectionnée pour le prix, j'étais hyper contente, puisque justement, comme tout le monde me parlait des prix des Imaginales, ça donne l'impression que c'est vraiment quelque chose de très renommé, du coup, qui est vraiment très très flatteur d'être sélectionnée. Ensuite, j'ai jamais eu l'occasion de présenter le livre devant des lycéens ou devant des classes, puisque les autres nominations étaient justement un prix qui n'était pas public, mais plutôt donc un jury comme pour les Futuriales, etc. Et donc, comme Aurélie l'a dit, c'est vrai que c'est vraiment bien de voir un jury public, ça change. Surtout un jury qui n'est pas composé d'auteurs confirmés ou de d'éditeurs confirmés ou de gens qui sont théoriciens du genre. Voilà, sachant que il y a aussi le fait de se souvenir quand nous on était au lycée et qu'on voyait des auteurs venir, alors pas de l'imaginaire dans mon cas puisque c'était de la littérature blanche, et on se dit ah oui, moi aussi j'ai vu des auteurs comme ça, c'est un peu l'échange de place, ça c'est vachement bien.
Et puis Lionel, bah Lionel lui c'est un des piliers des Imaginales, à la fois auteur, traducteur, mais est-ce que c'était une nouvelle expérience pour toi d'être nommé dans un des prix, même dans plusieurs prix, puisque tu étais également nommé pour le prix Imaginal. Pardon de retourner le couteau dans la plaie. Mais voilà, il y avait toi, pour le coup, puisqu'on parlait des différences entre jurys, il y avait la double expérience à la fois du jury professionnel et du jury de lecteurs cette année.
Non, tu parlais tout à l'heure de finaliste malheureux. Non, on est finaliste, il est heureux. Déjà, il est heureux d'avoir été finaliste, ce qui est quand même déjà quelque chose. C'est déjà une reconnaissance en soi que le livre ait été repéré par un jury, soit du public, soit professionnel. Donc, je pense pas qu'il y ait de perdants malheureux. Je pense pas qu'il y ait de perdants, d'ailleurs. Je pense que nous sommes tous des gagnants ici. C'est vraiment, ça fait très plaisir parce que pour ma part, j'écris pas spécialement pour une catégorie de public donnée. J'ai plutôt tendance à considérer, du coup, par conséquent, comme j'écris pas spécialement dans la littérature jeunesse, que j'écrirais plutôt pour un public adulte. Mais ça n'empêche pas que j'ai pas oublié l'ado que j'étais, le lycéen que j'étais. Et j'étais un lecteur un peu chiant, en fait, quand j'étais jeune. C'est-à-dire que si un bouquin m'agrippait pas dès les 3-4 premières pages, et encore, si c'était les deux premières, c'était mieux, j'accrochais pas, je laissais tomber le bouquin. Et c'est pour ça aussi que je lisais beaucoup d'imaginaire, en plus, à cette époque-là, parce que je trouvais en plus que cette inventivité-là qui me plaisait que dans ces bouquins-là. Donc, il y a toujours en moi une part qui est de se dire... Quand même, j'aimerais bien que le type maintenant qui écrit des bouquins, qui est moi aujourd'hui, j'aimerais bien que l'ado que j'étais il y a 20 ans, il puisse avoir pu prendre ces bouquins-là, et j'aurais bien aimé qu'il les aime. Donc je pense que j'écris aussi toujours un peu pour lui quelque part, et donc ça me fait vraiment du coup très plaisir que ce livre-là ait pu être repéré et ait pu que les profs aient pu considérer que ça puisse intéresser les lycéens et que ça ait pu les intéresser. Du coup, ça me dit que peut-être le moi de moi-même d'il y a longtemps, ça aurait pu lui plaire, et ça me fait plaisir.
En tout cas, c'est vrai que cette année, vous avez eu la chance d'avoir une très belle sélection. C'est le cas depuis plusieurs années maintenant. Et en plus, extrêmement diverse. On va pouvoir l'évoquer maintenant en rentrant un peu plus dans les livres eux-mêmes. Aurélie Wellenstein, où se situe-t-on lorsque démarre le Roi des Fauves ? Dans quel univers, finalement, va-t-on voir évoluer vos personnages ?
Le Roi des Fauves, en fait, j'ai voulu... c'est assez léger, c'est pour ça que je parle de vernis. C'est un vernis mythologique nordique. C'est-à-dire que les berserkirs hein, viennent de la mythologie nordique. Et c'était c'est pour ça aussi que le roman s'appelle Le Roi des Fauves. Les berserkirs, c'était les guerriers fauves. On les appelait les guerriers fauves. Il y avait plutôt la branche des guerriers ours et celle des guerriers loups. On estime... En fait, c'était des guerriers qui étaient pris dans une transe, une rage, une fureur sacrée, et qui s'élançaient sur le champ de bataille, qui dévastaient tout. Ils étaient insensibles au feu, ils étaient insensibles aux coups, personne ne pouvait les arrêter, ils défonçaient tout le monde avant de s'écrouler à la fin de cette transe furieuse. Et donc ils sont très liés aux animaux, à l'esprit animal, cette espèce de corps astral hein, de la mythologie nordique. C'est corps astral animal qui vivait dans ces guerriers. Ça s'appelle, je prononce pas bien, mais c'est le Hammer, ce corps astral animal. Et c'est ça que j'ai un peu voulu mettre dans Le Roi des Fauves. C'est-à-dire que c'est cet animal qui est en eux et qui va grandir en eux, qui va les écraser leur personnalité humaine pour se mettre à leur place. Alors après, ce que j'aime bien préciser, c'est que pour moi, la métamorphose animale, c'est pas négatif, parce que on est quand je présente le roman, je dis bah oui, ils ont 7 jours pour s'en sortir, ils ont 7 jours pour lutter contre cette transformation, mais c'est pas tellement le problème, on va dire, c'est pas tellement qu'ils se transforment en animal, parce que se transformer en animal, l'animal, c'est le symbole de la vitalité, c'est la sauvagerie, mais la bonne sauvagerie, c'est vraiment revenir à ses racines. D'homme, hein. D'homme libre, c'est la liberté, c'est la puissance, c'est tout ce qui est archaïque, mais toutes ces valeurs positives. Par contre, là, ce qui se passe dans Le Roi des Fauves, c'est qu'il se transforme en animaux, mais en animaux enragés. et c'est là. Tout le problème, c'est vraiment qu'ils vont perdre la tête, en fait. Ils vont perdre la raison, parce que... Alors, je pense que vous avez tous lu le bouquin, je sais pas, dans la sélection, normalement. Donc, je peux spoiler. Il y a donc un des personnages...
Il y a le podcast aussi.
Ah oui, merde, j'avais pas pensé au podcast. Bon, je spoil pas. Il y a un des personnages qui va investir la transformation de façon positive. Qui, elle, va réussir à transcender.
C'est d'ailleurs un des enjeux du roman, c'est que finalement, vos trois personnages d'adolescents qui se retrouvent embarqués dans cette aventure assez terrifiante, assez effrayante, parce que même s'il y a des aspects positifs, ça reste quand même très effrayant pour eux, j'imagine. Oui, ouais. Chacun va justement aborder cette question à sa manière. Ouais. Chacun va le vivre d'une façon différente.
Ils ont trois trajectoires très particulières, hein, entre celle qui va vraiment s'abandonner à cette rage primitive, entre celui qui va renoncer et le gentil garçon, quoi, qui va porter le fardeau. Ivar, pour moi, c'est celui qui porte sur ses épaules tout le poids de cette catastrophe. Il va essayer d'amortir les choses pour ses amis, de prendre sur lui, de les protéger. Il va faire tout ce qu'il peut. Il va vraiment porter des kilos et des kilos sur ses épaules jusqu'à ce que la fin, il se voûte sous ce fardeau et que il y a cette explosion finale. Donc, je sais pas, pour revenir à la première question. Oui, donc l'inspiration, c'est vraiment. C'est cette inspiration nordique, de mythologie nordique, mais ça reste assez personnel. C'est une lecture assez moderne et assez réinvestie du mythe du berserk.
Claire Crust, alors là on change quand même pas mal d'univers avec vous. C'est en apparence en tout cas beaucoup plus doux, beaucoup plus calme que ce qu'on a chez Aurélie, même si on va se rendre compte au fur et à mesure... des différents fils narratifs, puisqu'on a cinq histoires finalement qui s'entrecroisent, que on est quand même là encore dans une histoire assez sombre, assez dure. Je vais vous laisser faire parce que il est pas facile d'en parler de votre livre sans révéler trop de trucs. Est-ce que vous pouvez nous dire des Neiges de l'Éternel?
Alors déjà une première chose, en fait, j'ai commencé à écrire ce livre donc quand j'étais au lycée. Donc quand j'avais votre âge, je devais être en première, quelque chose comme ça. Et c'était pour un concours, je ne sais plus lequel, honnêtement. Et donc j'avais écrit la première histoire. Pourquoi ? En fait, je suis vraiment partie de cette histoire de donc Yuki, cette fille, qui veut partir chercher un guérisseur pour essayer de sauver son frère. À l'origine, ça ne se passait même pas vraiment au Japon. C'était un monde inspiré du Japon parce que je lisais beaucoup de mangas, etc. Et que j'aimais beaucoup l'univers, le côté un peu contemplatif, poétique que j'avais trouvé là-dedans. Et je m'étais dit, tiens, ça peut être vraiment sympa de reproduire un univers de ce genre-là. Et une fois que j'ai eu terminé la nouvelle, je l'ai oubliée pendant un certain nombre d'années. Et je suis revenue dessus vraiment par hasard en me disant, bah, tiens, j'ai envie de continuer. Alors, je vais quand même spoiler un petit peu parce que c'est dur de pas y spoiler du tout en disant... où j'ai voulu reprendre donc, sur le grand frère Akira, donc, qui meurt et qui revient comme un fantôme, donc dans la deuxième histoire. Et ensuite reprendre petit à petit chacun des personnages parce que je me suis rendu compte que oui, mais leur histoire n'était pas terminée, que j'avais envie de continuer. Et c'est là vraiment que je me suis dit, tiens, on va vraiment creuser aussi ce côté japonais. Donc toute l'architecture, donc le château familial de Yuki et d'Akira est très inspiré du château de Himeji. Si vous ne connaissez pas, en fait, c'est un château très très célèbre au Japon qui est entièrement blanc. Si vous avez l'occasion d'aller voir des images sur Internet, il est absolument magnifique. Et à partir de ça, c'est là où j'ai décidé de me renseigner énormément sur toute l'architecture, les vêtements, les coutumes, la calligraphie aussi beaucoup, puisque donc Akira est féru de calligraphie. Donc tout ce qu'il y a dans le bouquin sur comment calligraphier, etc., c'est pas inventé. Mais je ne voulais pas non plus tomber dans quelque chose d'historique où, par exemple, Sayuri n'aurait pas pu exister comme elle a existé puisque ici, c'est une courtisane, pas une geisha. Et historiquement, ça aurait été compliqué de créer un personnage comme celui-là. De même, l'auberge dans laquelle elle vit n'aurait pas pu exister. Yuki n'aurait pas pu partir comme elle est partie. C'était pas possible.
On est vraiment dans un univers de fantasy, pour le coup.
C'est ça. Il y a énormément de choses. Par exemple, on parle pas mal du shogun, etc. Alors, je me suis inspirée de la réalité historique. Mais en fait, c'est différent. La manière dont le shogun gérait ses troupes, etc., c'est un petit peu différent. C'est quand même bien inspiré, mais justement, en fait, je ne voulais pas m'enfermer dans ce carcan de l'histoire, puisque en fait, je déteste l'histoire, tout simplement, je vais être honnête. Je déteste apprendre les dates par cœur, etc.
Heureusement que Jérôme Noirez n'est pas là.
Oui, voilà, c'est ça.
Lionel, on va partir à Evanegir, qui est l'univers sur lequel tu travailles maintenant depuis quelques années et quelques livres. Je le dis pour ceux qui seraient surpris, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas forcément toujours de lien entre les histoires qui sont racontées. Et là, on va partir dans une ville qui s'appelle Aniagrad, si je ne me trompe pas, à la rencontre d'un personnage, là encore assez particulier. C'est un garçon dont on a tronqué l'adolescence finalement, et qui, à 22 ans, se retrouve enfin libre de faire ce qu'il veut, avec un idéal dans la tête, peut-être un peu d'esprit de vengeance aussi également, sauf que bah voilà, il va se confronter à cette ville d'Aniagrad.
Alors oui, effectivement, ça appartient à la séquence plus vaste d'Evanegir, donc qui est l'univers de fantasy que je développe depuis, c'est le troisième livre lui dans cet univers, mais à chaque fois, chaque livre est totalement indépendant. Par exemple, celui-là se passe des siècles et des siècles. On entend parler de l'Empire d'Azrethia, par exemple, dans ce livre-là. Les deux précédents se situent à l'époque même de cet empire-là, ce qui est là, à l'époque, entré dans le mythe et dans la légende. Donc c'est vraiment des choses qui sont différentes. C'est juste un cadre plus vaste. Donc oui, Ruiz, il a tout perdu. En fait, il est un peu... Il a eu une jeunesse dorée, donc le personnage central. Il a eu une jeunesse dorée, il est resté un peu figé dans l'ambre, quelque part. Il est resté ce gamin à 14 ans qui était, avec des étoiles dans les yeux, appelé à prendre la suite de sa maison noble. Et il débarque à 22 ans, le livre commence, il débarque à 22 ans dans cette ville de légende sans foi ni loi, dont on dit beaucoup de choses, beaucoup de légendes courent à son sujet et beaucoup de fantasmes courent à son sujet, puisque c'est une ville qui est sans foi ni loi, sans aucune loi que celle du commerce, et qui par conséquent on dit que tout y est possible, donc avec l'envie de tout reconstruire. Aniagrad, elle est née un peu de deux voyages qui m'ont marqué, que j'ai fait, qui sont la rencontre un peu improbable entre Édimbourg et Marrakech. Puisque vous avez lu le livre, donc je vais passer rapidement, mais du coup pour le podcast. Aniagrad, en fait, est une ville plus ou moins construite en croissant, sur une colline en croissant, où il y a une architecture extrêmement labyrinthique, avec des grandes tours de pierre noire, des ponts qui s'entrecroisent, des rues qui s'étagent, etc. Donc ça, c'est directement inspiré d'Édimbourg. C'est vraiment la vision qu'on a quand on est sur les collines de la ville. Et moi, j'ai été frappé, justement, je suis monté sur les collines, j'ai vu un panorama d'Édimbourg, et je me suis dit, mais enfin, on pourrait imaginer que la ville flotte et qu'il n'y a pas de fondement à ça. Donc une partie d'Édimbourg est née de cette vision-là très forte, et l'autre côté, qui est le marché, donc qui est cette espèce de plaine à perte de vue, qui est en fait une espèce de mer mouvante de d'étals, de marchands, de camelots, où tout le monde vend plus ou moins ce qu'il a pour survivre, y compris, c'est une part importante du roman, certains vendent leurs propres souvenirs et leur propre essence, c'est une sorte de prostitution mémorielle. Là, pour le coup, c'est né de l'ambiance absolument phénoménale et très joyeuse des grands souks, notamment du grand souk de Marrakech. Donc la rencontre vraiment entre ces deux univers-là, parce que c'est deux choses qui m'ont vraiment, vraiment marqué.
Alors c'est fascinant, parce que le roman, c'est une sorte de transmission finalement, et transmission au pluriel, parce qu'on voit à quel point, à travers le personnage de Rhys, tout va s'articuler autour de la relation entre le présent et le passé. Que ce soit un passé proche, quand c'est un passé d'un des personnages individuels, comme la vendeuse, par exemple, ou que ce soit un passé beaucoup plus lointain, y a quelque chose de très envoûtant et presque de dérangeant dans tout ça.
C'est vrai que moi, j'aime bien dans les livres, surtout, enfin moi, ce qui m'assomme, je pense qu'on fait les bouquins qu'on a envie de faire, et on essaie de faire ce qu'on n'aime pas trouver chez les autres. Moi, ce qui m'assomme particulièrement et qui m'assomme depuis mon plus jeune âge, c'est quand je lis un bouquin, c'est que j'ai l'impression qu'on essaie de me donner un message ou qu'on me fournit une thèse, qu'on essaie de me guider ma réflexion pour essayer de me faire passer un message en sous-main. Je suis là pour lire une histoire avant toute chose. J'aime bien réfléchir, par contre, mais j'aime bien qu'on pose des questions, donc et pas qu'on me serve les billes. Donc j'essaie de faire ça dans les livres, c'est-à-dire plutôt de donner au lecteur un espèce de grand jeu de pièces. Un grand bac à sable, en lui disant ben voilà, il y a des personnages avec ce qu'ils sont, ils ont leur réponse, mais c'est évidemment leur réponse à eux et c'est pas forcément les bonnes. Donc j'aime bien jouer à ce jeu là en disant bah écoute, moi j'ai pas plus la réponse que toi, donc on va éventuellement on va se raconter une histoire et on va essayer de faire en sorte qu'on passe un bon moment, mais en plus on va essayer de se poser des questions, mais je sais pas plus la réponse que toi, donc je te donne les pièces, fais-en ce que tu veux. De la même manière que moi, je découvre le truc au fur et à mesure de l'écriture. Donc, c'est vrai que les questions de transmission, mais surtout à partir de la question de la mémoire, c'est qu'est-ce qui nous fait, puisque dans le livre, donc il y a cette vendeuse qui vend des fragments de son âme et qui, en fait, sans spoiler, c'est une sorte de lent suicide, en fait, puisque plus elle se défait de son être, plus elle se défait de ce qu'elle est. Et c'est ce qu'elle cherche à faire, en fait. Elle cherche à oublier totalement ce qu'elle est. Ça, c'est d'ailleurs, il y a une parenté que j'avoue, qui est avec le film Leaving Las Vegas de Nicolas Cage, où là, pour le coup, on a la relation, quelque part, est inversée. Nicolas Cage va à Las Vegas pour mourir, il se suicide à travers l'alcool, et il rencontre une prostituée qui est clairement dans le meilleur état que lui, et qui, en fait, accepte son projet et l'accompagne. Donc, il y a clairement une parenté entre Pordam et Leaving Las Vegas.
Il y a une autodestruction assez forte.
Voilà. Et la question derrière se pose, puisque Ruiz tombe amoureux de ce personnage-là, la question de où est-ce qu'on place puisqu'il tombe amoureux d'elle, où est-ce qu'on place le curseur de l'amour ? Est-ce qu'il l'aime ? Est-ce qu'il va accepter de respecter ce qu'elle est, c'est-à-dire, mais finalement de la perdre, à travers le projet qu'elle a, ce qui est quand même assez terrible. Est-ce que c'est de la non-assistance à personne en danger, quelque part ? Est-ce qu'il peut l'en empêcher ou pas ? D'ailleurs, il lutte avec ça pendant une bonne partie du livre, en se disant qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? En plus, il lutte avec ses propres projets et ses propres trahisons.
Et sa fascination et son addiction, presque.
Et son addiction à ça, oui, parce qu'en plus, le truc en plus, c'est qu'il devient l'acheteur de ses souvenirs, et donc il ressent de la façon probablement la plus intime qui soit, ce qu'elle est et son essence. Donc il y a une espèce aussi de relation. Il y a certains certains psychologues aussi parlent de la relation amoureuse comme d'un banquet. Ça se passe bien quand les deux mangent au banquet qui est devant eux. Ça se passe mal quand, au lieu de manger finalement les raisins de la vie et le plaisir qu'ils peuvent avoir à être ensemble, ils finissent à se manger l'un l'autre. Et il y a un peu de ça qui est métaphorisé, c'est que c'est une relation amoureuse cannibale, c'est pas entièrement sain quand même, en fait.
Aurélie Wallenstein, Le Roi des Fauves, ça commence par une injustice, par une situation qui est très, pour le lecteur en tout cas pour le lecteur que je suis, peut-être que d'autres partageront cette impression, mais c'est assez inacceptable ce qui leur arrive à ces trois adolescents, parce que ils n'essayent finalement que de survivre en allant braconner sur les terres d'un seigneur, et l'enchaînement des événements va les plonger jusqu'à cette condamnation assez terrifiante qu'on va suivre. C'est un thème de fantasy assez récurrent, l'injustice d'un côté et puis la vengeance qui est un peu le contrepoids. Là aussi, un peu comme le disait Lionel, c'est une trame qui s'est imposée, que vous avez suivie naturellement, ou c'est quelque chose que vous aviez en tête dès le départ ?
Alors, assez curieusement, on m'a déjà fait la remarque, j'ai des personnages qui sont agis par les événements. C'est-à-dire qu'ils sont plus... C'est pas des personnages qui partent en quête volontairement. Dans mes romans, il leur arrive toujours une catastrophe au début, et finalement, ils sont obligés de réagir avec ces événements terribles. Enfin, à part pour la fille de Tchernobyl, les trois autres sont vraiment comme ça. Les personnages sont un peu les jouets du destin et ont pas vraiment de... essaient de prendre la main dessus, mais c'est loin d'être facile. Au niveau de l'idée générale, ouais, je suis vraiment partie là-dessus dès le début. Moi, c'est des trajectoires que j'aime bien. C'est vrai qu'en fantasy, ce qui est aussi assez classique, c'est la quête. C'est de partir en voyage, de prendre les armes pour accomplir quelque chose. Et non, moi, mes personnages, ils sont vraiment maudits. Bon, la malédiction, c'est un thème que j'aime bien. J'aime bien le thème du démon et de la malédiction et tout ce qui peut venir de l'extérieur, en fait, et moins de l'intérieur des gens. Et bon, après, oui, il leur arrive pas mal de malheurs. C'est aussi le conflit, hein, ce qu'on appelle le conflit narratif. C'est tous ces obstacles qui vont leur tomber dessus, qu'ils vont devoir surmonter. Bah, c'est aussi ça qui fait que vous allez tourner les pages.
Ils sont quand même à un âge où, employons des grands mots, mais ils sont dans une quête quand même initiatique, parce qu'ils sont à l'âge où on se construit, ils sont à l'adolescence, ils ont sans doute des aspirations les uns les autres. On le voit au début avec leur vie, même si pour certains le destin est un petit peu déjà tracé. Mais voilà, il y a aussi ce côté-là, c'est-à-dire de la construction d'une transition d'un âge à un autre.
Oui, c'est vrai. Oui, je disais, ils partent pas en quête. C'est-à-dire, c'est pas volontaire, mais ils sont forcément pris malgré eux dans cette espèce de quête initiatique. Avec les événements vont les confronter à une métamorphose, qui est pas seulement la métamorphose animale, bien sûr, qui est aussi cette métamorphose psychique et de leur personnalité. Comment ils vont eux se mesurer aux événements et dealer avec ça. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment les trois trames. Ils ont chacun leur façon de faire et leur façon de passer à autre chose pour le pire, hein, principalement pour tous les trois.
Il y a une écriture très visuelle que j'avais déjà remarqué d'ailleurs dans Chevaux de foudre, avec des scènes alors là qui sont assez sordides, quand même bien le dire, lorsqu'on est à la fameuse cour du roi des fauves, où ça tient autant de l'orgie que du charnier, hein, en sorte. On dit qu'on est content de ne pas avoir l'odeur en plus. Mais là aussi, c'est quelque chose qui est important pour vous, qu'on ait cette manière de visualiser vraiment les choses.
J'y tiens énormément. Ça, c'est quelque chose que je bosse beaucoup à l'écriture. En fait, j'ai été, quand j'étais petite, quand j'étais ado, j'avais 13 ans, j'ai découvert Stephen King. Et Stephen King a cette écriture très visuelle. Très très visuel, très cinématographique. Mais il y a un truc que j'ai repéré chez lui, c'est qu'il est tout le temps, il parle beaucoup des éclairages. Il y a des ombres et des éclairages, ça met tout de suite du relief dans ce que vous imaginez quand vous lisez sa prose. Donc c'est quelque chose que j'ai un peu repris au niveau que ce soit des éclairages et des couleurs, parce que ça permet de mettre, que ce soit plus visuel dans la tête des gens. C'est vraiment quelque chose auquel je tiens, que ça se déroule aussi dans l'histoire d'une façon assez cinématographique. Donc on est plus en train de réfléchir au plan qu'on va faire. J'ai fait du dessin aussi avant quand j'étais ado. J'ai commencé par la BD. Enfin, j'ai écrit, après je suis passée à la BD, et après je suis repassée au roman. Mais c'est vrai que peut-être que le fait d'avoir fait des planches de BD, ça m'a aussi incité à construire mes textes de cette façon-là. En fait, quand je fais une description, je commence par faire des descriptions assez longues, et après je vais couper. Je vais enlever plein de détails pour ne garder que ceux qui vont être les plus parlants, ceux qui vont être les plus explicites, ceux qui vont faire que quand vous lisez la description, qui ne va pas être non plus fluff, parce que ça, après je trouve ça chiant, c'est que ce soit assez tonique, mais très visuel. Et oui, ça c'est un truc que vraiment je travaille.
Claire Crust, un peu la même question, parce que je trouve aussi que Les Neiges de l'Éternel est un roman extrêmement visuel. Et là, je trouve qu'on retrouve justement ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la différence entre votre univers et ce que serait le livre s'il était dans un Japon réaliste, entre guillemets. Il y a un côté très onirique qui préside à ce roman.
Oui, alors comme je voulais justement m'inspirer énormément de l'architecture, enfin des décors du Japon, forcément dans mes descriptions, alors d'ailleurs elles étaient justement beaucoup trop longues et on a dû pas mal couper en remaniant un petit peu le bouquin pour l'édition, parce que j'avais tendance justement à rajouter énormément de détails justement pour que ce soit visuel. Ça le reste évidemment, puisque même si ce n'est pas un livre historique, tous les décors sont réels, donc je voulais vraiment les retranscrire comme ils le sont pour donner cette ambiance, parce que je trouve que par exemple l'intérieur du château avec les parois en papier de riz, les décors, etc., c'est toute une architecture, une manière de construire dans les lignes et dans les couleurs qui réussit à apporter énormément à l'atmosphère que je voulais rendre, donc l'atmosphère justement assez onirique, assez contemplative et poétique.
Je disais au début que c'était le moins sombre presque des trois, mais ça tient peut-être plus finalement justement à ce décor très blanc, puisqu'il y a les neiges effectivement qui sont omniprésentes, le château également, même alors à ça après c'est peut-être aussi une imagerie très collective, mais même l'imagerie du fantôme finalement a quelque chose de très blanc aussi. Là aussi c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé.
Oui, alors l'idée de la neige m'est venue au fur et à mesure. En fait, la première histoire s'était passée en hiver et je me suis dit mais tiens, c'est un côté cyclique, un côté cyclique, et surtout le côté de l'hiver. J'adore l'hiver et justement ce côté immaculé qui c'est cette pureté qui cache un peu tous les défauts juste en se posant, alors que les défauts sont encore là, la preuve dans les destins des personnages qui ne sont pas toujours très heureux, on va dire, sans spoiler. Et aussi donc ce fantôme, alors c'est vrai que c'est plutôt l'immatérialité du fantôme, la transparence qui donne cette, cette impression de pureté, je pense. Est-ce que c'était voulu En fait, moi, la thématique du fantôme, c'est quelque chose qui me passionne. C'est une thématique assez banale, mine de rien, parce qu'on la retrouve dans énormément de bouquins, de films, etc. Mais c'est comment ne pas mourir, ou comment être mort et être là quand même, sans être là.
On parlait de malédiction avec Aurélie, ça tient un peu de ça aussi.
Ça tient un petit peu de ça, sans que ce soit une malédiction vraiment, je te maudis, etc. C'est plutôt quelque chose qui tient du hasard plus qu'autre chose, comme il a dit d'ailleurs, le fait qu'on devienne un fantôme, c'est il y a une multitude de facteurs dans la vie, dans le fait de ne pas avoir envie de mourir, mais c'est aussi plutôt une sorte de hasard, puisqu'on a beau ne pas avoir envie de mourir, tout le monde ne devient pas un fantôme. Ce serait trop facile.
Alors là, pour le coup, dans toutes les histoires, vos personnages sont en quête. Ça, c'est une certitude différente en fonction des situations et des personnages. Je l'ai dit au début, hein, c'est vrai que c'est difficile d'en parler, mais la construction du roman est extrêmement importante. Qu'est-ce qu'on vous a répondu, par exemple, chez les éditeurs, quand vous avez envoyé votre texte avec cette construction qui est quand même très particulière ?
Alors, en fait, déjà, je l'ai envoyé à très peu d'éditeurs. Je l'ai envoyé à 3 éditeurs, à Walrus, qui m'a juste répondu en fait, qu'il ne faisait plus de fantasy, de fantastique, à une petite maison d'édition qui ne m'ont pas répondu grand-chose, en fait, donc je ne sais pas. Et donc à ActuSF, qui justement m'a dit qu'ils avaient trouvé cette construction très originale, très inhabituelle, que bon, ça pouvait déstabiliser le lecteur, mais que c'était justement quelque chose qui leur avait énormément plu.
Alors, c'est vrai que, voilà, pour les lecteurs qui sont habitués à de la lecture chronologique, véritablement, là, il y a de quoi surprendre. Mais c'est vrai que, du coup, ça se dévoile extrêmement lentement. Est-ce que ça tient là aussi peut-être à la culture japonaise qui est au cœur ? Il y a un côté assez... On prend son temps, finalement, dans ce roman.
Oui. Alors, est-ce que ça tient de la culture japonaise ? Oui et non, puisque ça dépend de ce qu'on regarde dans la culture japonaise. Il y a des films, bien sûr, et des livres, etc., qui ne sont pas du tout dans la lenteur. Je pense que c'est aussi quelque chose qui tient à ma personnalité. J'aime tout ce qui est contemplatif, tout ce qui prend son temps. Et d'ailleurs, justement, je ne pensais pas que ça réussirait à passer le cap des éditions, parce que c'est quelque chose, justement, dans les romans de fantasy, c'est beaucoup... Il y a beaucoup d'actions, il y a des guerres, où il y a des trahisons, des cliffhangers, etc. Ici, pas du tout. Au contraire, c'est même tout à fait l'inverse. On reste vraiment dans les personnages pour les suivre donc, dans leur quête. D'ailleurs, l'histoire de la quête, je pense que ça tient aussi au fait que en fait, j'ai écrit ce roman sur 8 ans, donc depuis la première au milieu de mes études. Et moi aussi, j'étais en quête de ce que j'étais. Je me suis réorientée plusieurs fois au niveau des études. Et forcément, je pense que ça transparaît. C'est ça aussi qui a transparu dedans.
Alors, c'est intéressant parce que c'est aussi une des questions que je voulais poser à Lionel. Port d'âme, c'est probablement le récit le moins épique que tu aies proposé. Souviens que l'année dernière, on a fait ensemble un café littéraire sur la fantasy épique. Là, on n'y est pas du tout. Moi, j'ai été extrêmement surpris en lisant Port d'âme parce que je m'attendais encore à retrouver, effectivement, j'étais encore dans le bruit des batailles de la route de la conquête, d'une certaine manière. Et on retrouve quelque chose qui est totalement différent, beaucoup plus introspectif, d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action, mais il y a autre chose. Comment ça s'est imposé à toi, cette situation-là ?
Alors, c'est assez amusant parce que, alors, du coup, c'est le dernier sorti dans l'univers d'Evan et Gir, mais chronologiquement, c'est un des premiers écrits, en fait. C'est d'ailleurs probablement le premier texte de longueur roman que j'ai écrit dans l'univers. Et il a été fondateur de beaucoup de choses dans l'univers. Cela dit, donc c'est un manuscrit qui, à la base, une idée qui a à peu près 8 ans, je crois. Mais quand j'ai commencé à l'écrire, j'avais clairement pas l'expérience et les reins assez solides parce qu'il y a il y a beaucoup de trames narratives différentes. C'est un récit un peu contemplatif, mais faut pas endormir le lecteur.
Et d'une certaine manière, par rapport à un des sujets centraux qui est la recherche scientifique, c'est intéressant aussi d'avoir lu les textes précédents, et en particulier La Route de la Conquête, parce qu'on se rend compte à la fois de l'importance qu'il va y avoir si les recherches aboutissent aussi.
Oui. Mais, paradoxalement, il y a beaucoup de textes, notamment La Route de la Conquête, parmi beaucoup de nouvelles et même La Volonté du Dragon, qui sont postérieurs en fait à l'écriture de ce roman-là. En fait, le terme d'Artek, par exemple, qu'on découvre dans dans Port d'Âme, qui est donc cette espèce de fusion de la magie et de la technologie qui, du coup, alimentait jadis les immenses machines de guerre impériales. En fait, il est né à l'écriture de ce bouquin-là. Et rétrospectivement après, donc j'ai eu ce manuscrit très longtemps, et donc l'univers derrière dans ce qui se passait avant a été informé, mais je savais déjà que j'arrivais là en fait.
Si vous voulez voir, pour ceux qui n'ont pas lu le précédent, vous allez voir la couverture de La Route de la Conquête. Elle est... où vous verrez justement les fameuses machines de guerre qui sont animées par l'Artek,
par François Barranger, qui est un excellent auteur de SF. Et du coup j'ai perdu le fil de la question.
Sur le côté introspectif et,
donc moi, je tiens à ce qu'il y ait vraiment l'attention narrative. Et c'est pas parce que c'est introspectif qu'il se passe forcément rien, justement. Donc, j'ai laissé mûrir ce manuscrit longtemps avant d'avoir, à mon sens, suffisamment d'expérience en construction narrative, en construction d'univers aussi, pour pouvoir reprendre le manuscrit. Et d'ailleurs, la version qui est publiée a été réécrite à peu près aux trois quarts, entièrement. Donc, Donc j'avais ce manuscrit depuis longtemps, donc je sais... Moi, il y a un truc qui est très important. Evanégyr, pour l'instant, on a vu... donc cette époque-là, et on avait beaucoup vu l'époque impériale, justement, qui pour le coup est très fantasy épique, avec des histoires de conquête, ce qui exclut pas aussi un filigrane, une petite réflexion sur la guerre et le colonialisme, mais c'est quand même beaucoup, je veux dire, il y a des mechas, il y a des robots géants, il y a les machines de guerre, il y a des dragons, enfin, on est dans une ambiance assez différente. Evanégyr, c'est une trame extrêmement large qui couvre approximativement 4 à 5 000 ans d'histoire dans mes notes. La dernière chose que je voulais, même si je pouvais, j'aurais pu partir sur tout un tas de projets, la dernière chose que je voulais, c'était, après deux bouquins à cette ère impériale, qui est quand même l'ère la plus martiale et probablement la plus épique et technologique dans toute la trame, la dernière chose que je voulais, c'était que les gens finissent par associer Evanégyr égale Empire d'Azrethia égale grosse conquête égale grosse bataille. L'âge d'or d'Azrethia couvre 1000 ans sur la trame de 4-5 000 environ. Donc c'était important aussi pour moi, je me suis dit à ce moment, bon, ça tombe bien parce que j'ai suffisamment d'expérience pour servir ce bouquin là correctement, et il faut qu'il sorte parce que il faut aussi que je puisse montrer à mes lecteurs Evanégyr, c'est ça, mais c'est pas que ça aussi non plus, c'est aussi des histoires introspectives centrées sur un personnage avec des choses peut-être moins épiques en termes d'envergure, mais qui n'en sont finalement pas moins graves, puisque un enjeu narratif finalement, c'est quelqu'un qui a quelque chose à perdre. Et ça peut être une nation, ça peut être une personne aussi.
Il y a une question, puisque il y a une espèce de coming out un peu dans ce livre, c'est que Azrethia s'est effondrée à un moment. Hein. On ne sait pas
tout
vraiment
à
quand ni dans quelles circonstances, mais on comprend.
Moi, je
bien.
Sais.
facile de narguer. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une relation, quand je parlais de la relation au passé, entre le passé et le présent, c'est aussi de voir à quel point il y a la différence entre le mythe et la réalité qui s'impose. C'est-à-dire qu'on a des éléments d'Azrethia qui, dans l'univers de Port d'Âme, sont devenus des mythes. Or, nous, pour avoir lu les précédents éventuellement, on sait que ce sont des choses qui sont arrivées. Et justement, c'est aussi un des enjeux du livre, c'est d'arriver à démontrer que ces mythes sont réels. C'est aussi quelque chose dont on va beaucoup parler d'ailleurs pendant ces quelques jours ici à Épinal, puisqu'on va beaucoup évoquer les questions autour de la religion, des dieux, des anges, etc. Et c'est vrai que voilà, on retrouve également ça, je trouve, dans Port d'Âme.
Tout à fait. C'est un des trucs qui me fascine à titre personnel et qui fait partie des thèmes récurrents dans Evanégyr, c'est comment un type lambda peut, par la force des circonstances et peut-être un soupçon de courage, devenir un héros. Comment le héros, son destin peut lui échapper. Comment le fait que son destin lui échappe, il va devenir une statue. Et comment la statue, 1000 ans plus tard, va être un dieu et une religion. Et c'est quelque chose qui est en filigrane sur l'ensemble de la série, qui sera aussi dans Les Dieux Sauvages, la trilogie que je prépare, dont le prochain sortira dans un an. Ce rapport à l'histoire, pour moi, c'est quelque chose de fascinant, parce que, de toute façon, la mémoire est imparfaite. On ne fait que reconstruire constamment, même notre mémoire individuelle. L'image qu'on a de nous, de notre passé, est totalement fictive. Ce qui est une pensée, selon la façon dont vous le voyez, soit assez fascinante et très intéressante pour l'écriture, soit complètement terrifiante. De se dire, mais sur quoi on se tient ? Où est la vérité historique ? Alors, pour moi, je trouve que c'est un terreau génial pour raconter des histoires, et surtout, dans le cadre des littératures de l'imaginaire et dans le cadre de la fantasy, qui a quand même un rapport à l'histoire et à l'historique qui est très important, qui est très fondateur. Un des thèmes principaux de la fantasy, c'est ce qu'on appelle l'abîme temporel. C'est le rapport des personnages de ce qui se passe au moment du récit avec ce qui s'est passé avant. C'est un truc qu'on a fréquemment, ça commence avec Tolkien, où on sent qu'on est toujours dans Le Seigneur des Anneaux, on sent que l'âge d'or est déjà fini, quoi. C'est un motif qu'on retrouve fréquemment. Et en le prenant pas forcément sous l'angle mythologique, mais peut-être, moi j'essaie plus de le prendre sous l'angle historique, mais sans les dates pour éviter que ce soit trop chiant, le côté justement le cœur de l'histoire, qui est qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce que j'en sais, en quoi je peux avoir confiance à ce qui s'est passé, et en quoi ça me forme moi, parce que je suis né d'une culture, je baigne dans une époque, et en quoi ça va potentiellement informer mes décisions. Et ce qui est super amusant et très agréable avec la fantasy, avec la construction narrative, c'est que nous, on peut faire voyageur temporel et se balader à toutes les époques et voir ce qui s'est vraiment passé, voir comment ça a été peut-être dévoyé, mythologisé, etc. Et jouer à suivre l'évolution de nos sociétés dans le cadre d'un monde imaginaire.
Ce qui était un grand thème de Druide, par exemple, d'Olivier Perru, précédent prix des lycéens ici il y a quelques années. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos auteurs ? Est-ce que parmi le public, il y a des courageux qui veulent s'y profiter ? J'ai un micro sans fil. Non ? Pas du tout ? Bon, bah, on va continuer alors. Aurélie, on a évoqué ce côté très sombre du Roi des Fauves. Alors, sans dévoiler, mais c'est vrai que on n'a pas le sentiment forcément qu'on va vers la catastrophe annoncée, qu'il va y avoir quelque chose d'autre. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, c'est un petit peu délicat d'aller un peu plus loin, mais voilà, on sent quand même que dans la métamorphose d'Ivar, il va y avoir quelque chose. Voilà, il va réussir à contrôler, à reprendre en main son destin.
Oui. Après, moi, ça a toujours été assez clair pour moi que ça allait finir comme ça. C'est-à-dire que j'étais partie sur cette trajectoire-là. Et du coup, c'est quelqu'un qui m'a fait cette remarque. C'est un peu comme tu dis, cet événement final, cette métamorphose finale du personnage principal, on la sent pas forcément venir en amont. C'est-à-dire que c'est les tout derniers événements qui vont fracasser tout ce qu'il a essayé de reconstruire. J'avais vraiment dans l'idée de partir sur quelqu'un qui était très gentil. Et vraiment, il est courageux. Il essaie de prendre sur lui. Et finalement, bon, ça se passe pas comme ça aurait dû.
Il est intègre. Et ça, il le garde jusqu'au bout, finalement, d'une certaine manière.
Ouais. Non, mais c'est quelqu'un qui est très droit. C'est quelqu'un qui est très droit et vraiment qui voudrait sauver tout le monde, pas lui, les autres, quoi. C'est depuis dans une des scènes du début où il essaie de se sacrifier pour les autres, pour que les autres soient pas concernés par la condamnation, que de prendre tout sur lui. Et pendant tout le long du truc, il va toujours essayer de prendre sur lui pour délester les autres. Et le pire, c'est que ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Ça lui est vraiment reproché aussi. Enfin, c'est assez affreux à la fin quand la fille lui dit mais non. Enfin, t'as vraiment merdé sur toute la ligne depuis le début. Quand moi, il m'a fait ça, quand le jeune seigneur, il m'a couché par terre dans les feuilles, il m'a dénudé. Est-ce que là, t'aurais pas pu intervenir ? Il intervient pas. C'est sur le moment, ils sont tous effectivement tétanisés par l'événement et c'est. Ils vont bouger, mais un peu tard. Donc c'est vrai que c'est pas très très gai tout ça, mais ouais.
Mais ça donne voilà, il y a ce côté, on rejoint encore dans ce final les mythologies et les contes nordiques, parce qu'il y a un côté très conte de Grimm finalement dans ce final. Et on a voilà, on se retrouve avec un personnage. Alors pour le coup, sa mutation est accomplie d'une certaine manière.
Oui, la mutation en berserk, ben c'est la métamorphose ultime, c'est-à-dire qu'il possède tous les pouvoirs inhérents. Enfin, il a même fait mieux que ce qui était possible. Mais enfin, je dis mieux, mais c'est assez terrible. C'est des
tout est relatif.
Voilà, tout est relatif. Hein,
ouais. Claire Crust, on a des personnages là aussi qui on l'a dit, sont en quête, cherchent un accomplissement. On peut dire qu'ils vont, par certains moyens, y parvenir. Peut-être que ce n'est pas forcément l'accomplissement dont ils auraient rêvé, mais ça va se dérouler. Et est-ce qu'on vous parle de vos personnages? Parce que moi, je vous le dis franchement, je me suis énormément attaché aux différents personnages. Je trouve qu'on a, y a un côté très attachant, voilà, de ces différents personnages dont on comprend finalement, ben, voilà, qu'ils évoluent tous plus ou moins en lien les uns avec les autres.
Alors, on me parle énormément de mes personnages. La première chose que les gens font généralement, c'est « Ah bah moi j'ai adoré Sayuri, ah bah moi j'ai adoré Akira, ah bah moi j'ai préféré Yuki. » Et ce qui est marrant, c'est que personne, quasiment, n'aime les mêmes personnages ou pour les mêmes raisons. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas prévu du tout, mais que je suis super contente de voir et d'entendre. Et d'un autre côté, du coup, je redécouvre un petit peu mes propres personnages. Parce qu'évidemment, moi aussi, j'ai mes préférés, même si...
C'est vrai que la manière dont c'est raconté fait qu'ils sont, entre guillemets, pas forcément en concurrence les uns par rapport aux autres.
Oui, aussi. Non.
ça aide peut-être à faire un choix et à se sentir plus attiré par l'un ou par l'autre.
Disons que comme une histoire est focalisée sur chacun des personnages et que pendant environ 30 pages, ils ont chacun leur point de vue, vraiment seulement leur point de vue, ça les personnalise, ça les met en valeur et du coup, les gens... plus que sur l'histoire en elle-même, se focalise sur les personnages, sur ce qui leur arrive, sur la manière dont ils gèrent ce qui leur arrive, dont leur point de vue évolue. Et du coup, c'est vrai qu'il y en a par exemple qui me disent plutôt « Ah bah moi, j'ai pas aimé ce personnage-là, par contre, j'ai adoré celui-là. » Du coup, dans un seul livre, on arrive à des gens qui me disent « Ah bah moi, j'ai pas du tout aimé ça, et j'ai adoré ça. » Ce qui est un petit peu contradictoire, mais ce qui révèle un petit peu la personnalité du lecteur aussi. C'est... Ouais, voilà, c'est ça.
Ouais, parce qu'on lit finalement presque comme un recueil de nouvelles.
Oui, c'est ça. Mais alors, il faudrait tester, je sais pas, de lire les nouvelles dans le désordre. Je sais pas ce que ça pourrait donner. Moi, je les ai imaginées dans cet ordre-là parce que je pense qu'au niveau de. Enfin, je pense qu'au niveau du fil littéraire, c'est comme ça qu'il est le plus compréhensible, puisque tout part de Yuki, en fait, tout découle d'elle. Après, il faudrait demander à quelqu'un de le lire dans le désordre. Ça peut être intéressant.
Alors j'ai fait mon malin en parlant de Port d'Âme il y a quelques jours et je me suis amusé à faire des comparaisons littéraires. Puisque tu ne m'as pas répondu, tu ne m'as pas dit ce que tu en penses, je vais te poser la question ici, comme ça sera fait. Rhys, il a tout pour être Rastignac et en fait il est Lucien de Rubempré.
Je suis très flatté de la comparaison. Il n'y a pas vraiment de lien conscient. Pour être très honnête, mes inspirations à l'époque sont vraiment tirées des voyages et on leur racine, en fait, c'est pour ça qu'il y a une chanson qui est citée en exergue, on leur racine dans la culture métal gothique à l'époque. Donc, alors, qui vient tirer ses racines dans le romantisme ? Très clairement. Donc forcément il y a des parentés, mais il n'y a pas
j'ai pas raconté que n'importe quoi.
Non. Mais puis c'est quand même la comparaison avec le tableau dont le titre m'échappe là tout de suite.
Et t'es pas non plus
volontaire, mais c'est, en tout cas il y a clairement l'esthétique romantique qui plane sur Port d'Âme.
Si je fais la comparaison entre Rastignac et Rubempré, c'est parce que au départ on a un garçon qui est d'une, on revient à ce que disait Aurélie, qui est d'une gentillesse, d'une droiture absolue, qui n'est absolument pas prêt à affronter cette ville qui a tout pour le dévorer finalement. Et au fur et à mesure, on se dit, mais il a tout pour passer du côté obscur de la force et devenir un personnage absolument ignoble. Parce qu'il a tous les fils, il va comprendre au fur et à mesure tout ce qui se trame dans cette ville. Il a toutes les clés en main. Et au lieu d'organiser une vengeance qui aurait pu être quelque chose d'assez épouvantable et devenir véritablement peut-être même... Un personnage totalitaire et dictatorial, il va garder jusqu'au bout cette intégrité pour que sa vengeance d'une certaine manière s'accomplisse mais qu'elle reste droite et intègre. Il y a eu la tentation à un moment de le faire basculer vraiment, d'en faire un monstre.
Non, alors il y a une histoire assez amusante sur Port d'Âme, c'est que le tout premier jet, Ruiz c'était beaucoup plus était plus proche justement de... Une des choses qui m'ont été oui, c'est quand même, il a une certaine candeur. Mais il pouvait pas être autrement parce que sinon, le bouquin se serait arrêté à la page 10. C'est-à-dire qu'il
serait suicidé.
Il se serait suicidé, ou alors il aurait ne serait tout simplement, il serait jamais allé rencontrer la vendeuse. L'histoire aurait jamais eu lieu. Comme quoi finalement son père avait pas entièrement tout raté dans son éducation, il a peut-être au moins réussi un truc. Et dans les premières, toutes premières moutures de Bordam qui portaient pas encore ce titre-là, Ruiz c'était quelque chose, quelqu'un d'un peu plus dur et finalement peut-être d'un peu mieux armé pour affronter Aniagrad, et ça marchait juste pas en fait, l'histoire n'avait pas lieu. Et donc il y a dès le début, j'ai eu pendant très longtemps au-dessus de mon bureau un truc que j'avais tiré à l'ordinateur qui était marqué Ruiz est quelqu'un de positif. C'est le truc qui a gouverné l'écriture. Donc j'ai jamais eu la tentation de le faire parce que sinon l'histoire aurait juste pas fonctionné. Surtout je pense aussi on le cache plus ou moins bien, mais on a tous un peu je pense des maraudes d'auteurs qui reviennent et qui est contraintes toujours. Moi j'en ai deux qui sont la première et qui est très nette dans Port d'âme, c'est comment est-ce qu'on reste quelqu'un de bien quand le monde coopère pas. Est-ce qu'on y arrive déjà? Et j'avais envie que Ruiz y arrive. Parce que j'ai eu suffisamment de salopards et de gens qui au bout d'un moment, j'ai eu envie d'avoir un type un peu plus positif que ça. Dans Léviathan, j'avais une d'assez grande galerie de salopards et j'avais envie un peu de changer d'air aussi. Le deuxième truc, c'est, et ça, c'est, ça court assez dans toute la thématique des Vanégyres et qu'on retrouve avec la thématique historique dont on parlait tout à l'heure, c'est, je pense qu'une des grandes tragédies de l'être humain, c'est de prendre d'extrêmement mauvaises décisions avec une extrêmement bonne foi. Et c'est beaucoup aussi ça dans Port d'âme, c'est tout le monde est d'extrême bonne foi, et c'est bien pour ça que ça se passe mal, quelque part.
Voilà, on a fait une présentation de ces trois romans qui étaient en lice pour le prix imaginaire des lycéens, imaginal des lycéens. Vous allez, vous, lycéens, rencontrer Paul Béorn, que vous avez sacré cette année, cet après-midi. Mais voilà, on avait envie aussi de vous... peut-être de vous faire découvrir un peu plus profondément les romans que vous avez eus en main et que vous avez découverts. Et puis également nous faire découvrir des auteurs, puisqu'on a aussi une jolie palette du talent de l'imaginaire francophone actuel avec cette sélection. Merci beaucoup à tous en tout cas.
Merci à vous. Merci.